Ah, bonjour à tous, vous allez bien ce matin?
Oui, à Dieu. On a chanté, c'est beau.
Et voilà, on est bien.
On est bien. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de quelques personnes qui m'écrivent régulièrement, comme par exemple notre sœur Marilyn. Je ne peux pas répondre en ce moment parce que j'ai des problèmes de connexion. Mais ce n'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que j'ai des problèmes de connexion. Alors, je suis désolé, mais bon, je pense que ça va s'arranger d'ici un peu de temps. C'est dans la campagne ici. Hein. On va lire Actes chapitre 8, verset 26, s'il vous plaît. Je prie. Seigneur Jésus, je te prie, afin que je puisse apporter ce message avec clarté et que ceux qui écoutent comprennent. Merci Seigneur Jésus, je te prie que ceux qui comprennent obéissent à ton évangile, que ton nom soit béni et glorifié. Je te prie ainsi pour que tous ceux qui viennent, et ils sont des milliers, eh bien puissent apporter de la saveur dans ce pays de France qui est en train de se déchristianiser. Merci Seigneur. Amen.
Amen.
Amen. Je rapproche ce micro de moi parce que vous croyez que c'est une bougie, mais en fait c'est un micro. Voilà, donc Actes chapitre 8, verset 26. Je commence. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza qui est désert. Il se leva, est parti. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu de Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Éternel dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien répond: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui, donc dans le char. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, donc le passage d'Ésaïe. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage d'Ésaïe, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque, c'est pas monsieur de l'eau qu'ils ont rencontré, ni madame de l'eau, ils ont rencontré de l'eau, c'est-à-dire un cours d'eau. Non mais je précise parce que peut-être que vous allez penser, certains vont penser qu'ils ont rencontré madame de l'eau. Hein? Non, ils ont rencontré de l'eau, de la flotte. Hein? Alors ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Voilà quelqu'un qui se convertit, voilà le résultat, voilà l'explication. Une personne qui s'est convertie assez rapidement, hein. Le Seigneur n'a pas changé. Je vous l'ai prêché dernièrement, Dieu ne change pas. Les époques sont différentes, notre époque est différente, on ne se promène plus avec des chars, sauf au Canada. On ne se déplace plus avec des chars, mais avec des automobiles. Mais le message de Jésus, lui, est toujours le même, il est toujours valable aujourd'hui, à notre époque, pour nous, gens modernes du 21e siècle. Et nous venons de lire un texte qui nous parle de l'apôtre Philippe, qui parlait avec un Éthiopien, qui était responsable de tout le trésor de la reine d'Éthiopie, ce n'était pas une grosse nouille, c'était quelqu'un d'intelligent, certainement, puisqu'il avait des fonctions élevées, et il a compris ce que Philippe lui a dit. Parce que vous avez des gens qui ne comprennent pas. Vous pouvez leur dire 1000 fois, ils ne comprennent pas. Lui, il a compris. Ce monsieur, qui était donc un eunuque, qui nous a dit, revenait de Jérusalem où il avait adoré dans le temple. Ça veut dire que déjà, il croyait en Dieu, dans le Dieu d'Israël. Il était sur son char et il lisait le livre d'Ésaïe, qui est un livre prophétique qu'on trouve dans toutes les Bibles. C'est alors que le Saint-Esprit pousse Philippe à lui adresser la parole et lui dit « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Est-ce que tu comprends ce que tu dis ? Et l'Éthiopien lui répond, comment est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'explique ? Comment est-ce que je pourrais le comprendre si quelqu'un ne me guide ? Philippe, donc, en commençant par le texte, par le passage que cet homme était en train de lire, eh bien, il a parlé de la bonne nouvelle de Jésus, parce que ce texte parle, le passage d'Ésaïe là, parle de Jésus qui a été mis à mort, qui était crucifié afin de porter nos péchés et de se sacrifier afin que nous puissions être pardonnés, parce que Dieu avait dit qu'il fallait des sacrifices pour être pardonnés. Alors les Juifs offraient des sacrifices dans le temple pour être pardonnés, et voilà que Jésus est venu et il a fait le sacrifice parfait qui fait que si nous croyons en lui, nous sommes pardonnés. Hein? Il a fait le sacrifice parfait. Et voilà ce que Philippe lui a donc expliqué. Et mes frères et sœurs, la question de cet Éthiopien est un vibrant rappel de la mission que nous avons tous reçue. 1. Chercher à comprendre. 2. Enseigner les autres. C'est clair ? On comprend jusque-là ? Non, mais parce que là, le titre de ma prédication, c'est « Comprenez-vous ce que je vous lis ? Comprenez-vous ce que vous lisez ?» Alors, je vais vous répéter souvent, est-ce que vous avez compris ? J'espère que vous avez compris jusque-là. Alors, il nous arrive à tous d'avoir besoin de l'aide pour comprendre quelque chose qu'on trouve dans les Écritures et qui nous semble un peu bizarre. Alors, on a des dictionnaires bibliques, on a des serviteurs de Dieu aguerris qui connaissent, qui savent et qui peuvent nous expliquer. Il y a des gens fidèles qui sont inspirés et qui peuvent nous expliquer les Écritures. Il y a aussi des gens infidèles qui ont à renier les Écritures au profit de leur tradition, mais ce n'est pas là qu'il faut aller demander des explications au sujet de la Bible. Il faut aller vers des gens qui sont fidèles aux Écritures. Et des fois, nous sommes comme Philippe, eh bien, nous devons instruire quelqu'un, instruire les autres, dans leur cheminement sur cette terre. Donc, des fois, on est celui qui a besoin de comprendre, et puis des fois, on est celui qui explique. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas dire, moi, je ne veux pas vous expliquer, je suis là juste pour apprendre et comprendre, c'est tout. Si, on a les deux missions, c'est important. Lorsque nous cherchons à apprendre et à enseigner l'évangile de Jésus-Christ, notre objectif doit être de faire grandir la foi dans le cœur des gens. La foi en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, son Fils. Et enseigner, nous avons aussi l'objectif d'enseigner le plan de Dieu pour que ces gens qui nous entendent puissent connaître le bonheur de vivre avec Jésus-Christ chaque jour de leur vie, en comprenant suffisamment bien la signification du sacrifice de Jésus sur la croix pour pouvoir l'enseigner aux autres. Parce que s'ils ont mal compris, ils vont dupliquer, ils vont mal enseigner, ils vont enseigner des choses qu'ils ont compris de travers. Donc il faut être bien certain que les gens ont compris ce que les Écritures disent afin qu'ils puissent enseigner ce que les Écritures disent fidèlement. Afin que ceux qui écoutent puissent parvenir à une réelle conversion durable et à une totale délivrance. Alors, une fois que les gens ont bien compris le plan de Dieu pour leur salut, nous pouvons les guider à respecter les alliances avec Dieu, parce qu'il y a des alliances à passer avec Dieu, comme le baptême d'eau pour commencer. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le texte en parle. Les gens que qui nous entendent doivent avoir le profond désir de suivre Jésus une fois qu'on leur a bien expliqué, en toute bonne compréhension. Et ça va favoriser une réelle transformation dans leur cœur. S'ils ont bien compris, ils vont vraiment avoir une réelle transformation dans leur cœur, dans leur centre, dans leur intelligence, dans leur comportement. Nous devons être bien certains que les gens qui nous écoutent ont bien compris ce que nous leur disons, ou être bien certains qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Je me rappelle, j'avais un frère, tout au début de la vie communautaire, c'était encore au Péreux, notre première maison communautaire, et tous les soirs, je le voyais, il lisait la Bible. Moi, des fois, le soir, j'oubliais, parce que moi, je préfère le lire le matin. Et le soir, des fois, j'oubliais. Alors, je dis, oh là là, t'es formidable, toi, tu n'oublies pas, hein, tu lis vraiment ta Bible. Il dit, pour ce que ça me sert, je ne comprends rien. Ah bon? J'étais étonné quand même. J'étais étonné de cette réaction. Il faut être certain que les gens comprennent quand ils lisent les Écritures. S'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas être transformés en une nouvelle création. Pourquoi ? Parce que la foi qui fait vivre, la foi, elle vient de ce qu'on comprend, de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend des Écritures. Si on ne comprend rien, autant lire Tintin, hein ? Donc, nous avons à comprendre ce que nous lisons et à expliquer correctement ce que nous avons compris des Écritures, l'expliquer correctement aux autres. Alors, l'Éthiopien, il a vraiment compris Philippe. Philippe était clair, carré. Il n'a pas fait un sermon avec des grandes envolées sentimentales. Non, non, non. Il a bien enseigné le plan du salut, pourquoi Jésus était venu, moi, pendant des années, jusqu'à l'âge de 18 ans, pourtant j'allais à l'église, hein, protestante. Eh ben, je croyais que Jésus s'était fait avoir et qu'il n'avait pas réussi à se défendre des Romains, qu'il l'avait misérablement crucifié, que c'était quand même dommage, parce que personne ne m'avait fait comprendre ce qui s'était vraiment passé. Jusqu'à ce que je rencontre Raphaël qui m'explique bien pourquoi Jésus était mort sous la croix. Il ne s'est pas fait avoir, il s'est donné, il a dit « personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie en sacrifice pour que vous puissiez être sauvés si seulement vous croyez ». Hein? Donc Raphaël a bien expliqué, là j'ai compris. Donc l'Éthiopien a aussi bien compris Philippe qui a bien expliqué et il a pris connaissance de qui était Jésus. Hein? Il le dit, maintenant j'ai compris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il a aussi compris ce qu'il devait faire. Ah, il a tellement bien compris qu'il a demandé à être baptisé. Alors, il s'est converti à Jésus-Christ. Et il a obéi à la volonté de Jésus-Christ en se faisant baptiser dans l'eau. Et puis, ensuite, il est parti tout joyeux, continuant son chemin. Et puis, Philippe a été enlevé par l'Esprit. Une autre histoire. Comprenez-vous ce que vous lisez quand vous lisez votre Bible ? Comprendre, c'est primordial, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais vous lire dans Romains chapitre 10, ce texte est le contexte. Parce qu'on dit toujours, la foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi vient de ce qu'on entend, oui, mais dans le sens, on comprend. Comme par exemple, je t'explique un truc mathématique, je dis, ça y est, tu t'as saisi. Oui, oh, je t'entends, c'est bon, ça veut dire je te comprends. Hein? Le mot entendre a ces deux significations. Donc, je lis, à partir de Romains 10, 14. Écoutez bien. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est-à-dire les gens. Comment est-ce qu'ils vont invoquer le nom de Jésus en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Si vous ne parlez pas de Jésus aux gens, comment ils vont faire pour croire? Il faut parler, il faut témoigner, il faut expliquer. Alors il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais Paul est carré, on peut comprendre ce qu'il dit. Hein? Il faut des gens qui prêchent, à des gens qui n'ont jamais entendu, afin qu'ils comprennent, et puis qu'ils puissent invoquer le nom de Jésus. Il y a ces trois choses obligatoires, on ne passe pas à côté. Et ensuite il dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est Dieu qui envoie des prédicateurs. Il y en a, ils s'autoproclament prédicateurs, puis ils viennent vous blablatérer des choses, n'importe quoi. Non, non. Quand Dieu envoie un prédicateur, il confirme ce que le prédicateur dit par des signes, des prodiges et des miracles. C'est clair. C'est dans Actes chapitre 16, dans les dernières lignes de ce chapitre. Alors, donc Dieu envoie des gens afin qu'ils annoncent l'évangile. Et alors il dit, selon qui est écrit, parce qu'il cite un verset, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et ensuite Paul il rajoute, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. C'est pas seulement de croire, mais c'est d'obéir à la bonne nouvelle. Alors il y a plein de gens, ils disent, moi je crois en Jésus. Mais ils obéissent à rien, ou à très peu de choses, ou à des traditions plus ou moins chrétiennes, mais pas à l'évangile, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'on trouve dans les saintes écritures, qui ne sont ni protestantes, ni catholiques, ni baptistes, ni pentecôtistes, ni mormones, ni ce que vous voulez. La Bible, c'est la Bible. Alors il continue, il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Je vous le demande, qui croit à ma prédication ?« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on comprend. Est-ce qu'on entend vient de la parole de Christ ?» Si ce n'est pas la parole de Jésus-Christ que vous avez comprise, c'est la parole d'un gourou, d'un pape, d'un pasteur autoproclamé, de n'importe qui. C'est la parole de Christ qui donne la foi, c'est pas... Il faut que ça soit la parole de Jésus qui soit prêchée, pas n'importe quoi. C'est-à-dire, la parole de Jésus, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Bon. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ? Au contraire. Leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde, les paroles des prédicateurs. Et c'est vrai. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su ? Moïse, le premier, dit « J'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Vous voyez, les Juifs ont entendu Moïse, mais ils n'ont pas obéi, alors Dieu leur dit, au travers de Moïse, « Eh bien, je vais exciter votre jalousie par des nations sans intelligence. » C'est-à-dire nous, les Français, les Suisses, les Canadiens, les Espagnols, les... Parce que eux, quand ils entendront, ils comprendront et ils obéiront. Ils ne feront pas comme vous. C'est ce que Moïse dit au peuple juif. Je vais exciter votre jalousie. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Moi, je ne cherchais pas vraiment Dieu. Hein, je ne sais pas vous, mais moi, je ne cherchais pas vraiment Dieu. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Moi, je demandais pour... Moi, je croyais être chrétien. Moi, j'étais protestant de l'Église réformée nationale suisse. La meilleure église du monde, une église nationale, ouais, ben voilà, mais j'avais rien compris. Mais au sujet d'Israël, il dit, donc il a la hardiesse de dire, j'ai tendu mes mains tous les jours vers ce peuple rebelle et contredisant. Ils sont particuliers les juifs, pas tous, hein, mais il y en a même pas mal, on en connaît quelques-uns. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'être contredisants et d'être rebelles. C'est une curiosité. Dieu les aime quand même, hein, même aussi, les aime quand même, mais il faut quand même leur reconnaître cette particularité. Hein, vous avez les Suisses, c'est des gens qui sont disciplinés. Vous avez les Français, c'est des rigolards et des gueulards. Vous avez les Italiens, c'est des dragueurs. Vous avez les Allemands, c'est plutôt du bagarre. Chaque peuple a ses qualités et ses défauts. Et les Juifs, ben, ils ont un coup raide. Hein, c'est la Bible qui le dit au moins 50 fois. Et ils sont contredisants. Moïse dit quelque chose... Oui, mais à mon avis, je pense que... On s'en fout de ce que tu penses. Qu'est-ce que Dieu dit ? C'est ça qui est important. Hein ? Est-ce que tu as compris ce que Dieu dit ? Oui, alors obéis. On ne te demande pas ce que tu penses. Si Dieu dit une chose, c'est que c'est bon pour toi. Voilà, c'est clair ? Bon, alors, cet homme se convertit, et vous voyez pourquoi le commandement d'apprendre l'Évangile, ce qui est la vraie bonne nouvelle... C'est pas nouveau, déjà, l'évangile du temps de Moïse, c'était autre chose. On était sauvé par des sacrifices d'animaux, maintenant on est sauvé par le sacrifice de Jésus, qui a été donné une fois pour toutes. Mais c'est important de le comprendre, d'y obéir, de s'y soumettre. Comment voulez-vous être témoin de choses que vous ne connaissez pas, ou être, comment voulez-vous être témoin de quelque chose, un témoin efficace de quelque chose, où vous ne vous êtes pas soumis, où vous n'avez pas obéi? Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas un témoin. C'est comme moi, par exemple, je vais à la police, je dis, voilà, il y a eu un accident en route à l'avenue du Général de Gaulle. Oui, et le flic va me demander mon nom, mon adresse et tout ça. Et puis ensuite, il dit, alors, qu'est-ce que vous avez vu? Oh, rien! Mais vous n'êtes pas un témoin, alors! Vous devez savoir, pour pouvoir dire aux autres, vous devez connaître. Et pour connaître, c'est dans la Bible. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, c'est un faux témoin. Voilà. Boum. C'est un super spirituel vont me dire, « Oh, mais moi, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. » Ah, eh ben c'est faux. C'est faux. Il ne fait que de vous rappeler ce que Jésus a enseigné. Ça se trouve dans Jacques, chapitre 14, verset 26. Écoutez-moi bien, parce que c'est vrai que le Saint-Esprit vous enseigne aussi. Mais il n'enseigne que ceux qui, déjà au départ, se souviennent de ce que Jésus a dit. Vous comprenez? Le disciple de Jésus a besoin du Saint-Esprit pour lui rappeler ce que Jésus a dit. Les disciples du temps, quand Jésus est parti et monté au ciel, ils ont eu besoin du Saint-Esprit pour leur rappeler ce que Jésus avait dit. Ah, ils se sont souvenus, ah oui, Jésus avait dit ci, ah oui, Jésus avait dit. Alors ils ont écrit, puis ça a donné les évangiles que nous avons. Et de nos jours, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce que Jésus a dit. Mais comme on n'a pas entendu Jésus en face à face, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que Jésus a dit? Ben, il faut lire la Bible. Parce que ceux qui ont été témoins, qui ont vu Jésus, qui ont vécu avec lui, qui ont bouffé avec lui, ils le connaissaient, ils ont écrit ce que Jésus a dit. Et si vous voulez savoir ce que Jésus a dit et ce qu'il commande, le meilleur moyen, c'est de lire la Bible et non pas d'aller écouter un gourou. Même moi, hein, allez voir dans la Bible si ce que je vous dis c'est vrai. Et si ce que je vous dis est faux, arrêtez de m'écouter. Arrêtez. Alors, de nos jours, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous parler, de nous enseigner par le moyen de la Bible, que nous appelons la parole de Dieu. C'est un peu pompeux, mais c'est quand même, il y a des paroles de Jésus dedans. Et puis aussi, c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire les gens vers les ministres du Seigneur qui ne trahissent pas le message de Jésus. Parce que vous en avez, il y en a quand même encore. Vous en avez qui ne trahissent pas, qui ne connaissent pas tout, mais au moins ce qu'ils connaissent, ils ne le déforment pas. Vous voyez? Vous allez voir des baptistes, par exemple, ils ne connaissent pas grand-chose au sujet des dons spirituels, mais ce qu'ils connaissent, c'est juste. Vous pouvez écouter un prédicateur comme ça. Hein? Et puis il y en a d'autres. Voilà. Bon, alors Philippe, il dit à l'Éthiopien, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et c'est pourquoi il est important de dire la Bible, et afin de savoir ce que Jésus a dit et d'être enseigné par le Saint-Esprit pendant notre lecture. Et il arrive qu'on ne comprenne pas quelque chose que Jésus a dit dans la Bible en lisant. Mais au moment voulu, le Saint-Esprit va vous rappeler ce que Jésus a dit, c'est-à-dire ce que vous avez lu dans la Bible au moment où vous en aurez besoin. Au moment où vous en aurez besoin. Combien de fois ça m'est arrivé? Et si on croit, si on se croit très spirituel, on pense qu'on n'a pas besoin de savoir ce que Jésus a dit parce que le Saint-Esprit nous inspire, eh bien on est un hérétique, je suis désolé. Ce que les évangiles nous apportent, c'est ce qu'il a dit, ce que le Maître a dit, ce que Jésus a dit. Et donc, si nous ne faisons pas ce qu'il a dit, eh bien, nous n'obéissons pas à la parole de Jésus-Christ. Nous ne nous croyons plus malins parce que nous pensons que le Saint-Esprit nous inspire directement. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil spirituel. Nous ne pouvons pas prétendre comprendre les choses que Jésus n'a jamais dites si déjà nous ne comprenons pas ce qu'il a dit et qui est retransmis par les apôtres dans le livre. Hmm? Le fait de comprendre des choses que Jésus n'a pas dit dans la Bible, ça existe, mais c'est réservé aux disciples, à ceux qui déjà s'appliquent à pratiquer ce que la Bible dit, ce que Jésus dit, sans transformer. De nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des révélations, qui contredisent ce que Jésus a dit. Beaucoup. Je regarde ça sur YouTube, mais je suis effaré. Effaré. Et ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Depuis, à partir du moment où les apôtres, les derniers 12, sont morts, à partir de là, le message de Jésus a été oublié au profit de la tradition. La Bible est toujours la Bible. Hein. Vous prenez une Bible, là, ça c'est une Bible protestante, et puis ça c'est une Bible catholique, elles disent la même chose. Dieu veille sur sa parole. Voilà. Vous comprenez ? On en est arrivé à avoir des gens qui se croient sincèrement chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont adeptes d'une religion qui a des bribes de christianisme. Parce qu'ils n'ont jamais compris le message de l'évangile et ils ne lui ont jamais obéi, comme c'est écrit dans Romains 14, 16. Ils n'ont pas obéi à l'évangile. On doit obéir à l'évangile. Non, Michel, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi, on n'a pas à obéir. Tais-toi, tu sais rien. Quand tu dis ça, tu prouves que tu sais rien. On doit obéir à l'évangile. Pas seulement croire. Ils sont, ces gens-là, complètement embourbés dans des traditions mensongères, mélangés avec des petits bouts de vérité. C'est terrible. Et ils sont sûrs d'être chrétiens. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils seront étonnés quand ils arriveront devant Dieu. Ils étaient sincères, mais ils étaient sincèrement dans l'erreur. Sincèrement dans l'erreur. Regardez l'Éthiopien. Il écoute Philippe qui lui explique l'évangile. Et il passe à côté d'un cours d'eau. Et l'Éthiopien dit... Voilà, de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Pourquoi il dit ça? Parce que Saint-Esprit lui a inspiré qu'il fallait être baptisé? Non! Mais parce que Philippe lui a parlé du baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, ça fait partie du plan du salut. Dans Marc chapitre 16, il dit, c'est Jésus qui parle, et qui dit, celui qui croira en moi et qui sera baptisé, c'est-à-dire immergé dans l'eau, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il n'a même pas besoin d'être baptisé, il est perdu. Ou alors il peut être baptisé, tout comme. Mais s'il ne croit pas, il est perdu. Il faut croire et obéir. Croire et être baptisé. Le baptême, c'est un mot grec qui signifie immerger. Si vous ne me croyez pas, allez voir dans un dictionnaire. Même les plus mauvais dictionnaires vous le diront. Alors Philippe, lui, avait donc enseigné l'évangile, la bonne nouvelle, comment être sauvé, en. Lui parlant du baptême aussi, puisque l'Éthiopien lui dit, alors qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Vous me suivez? Ah tiens, on va le relire pour que... Alors c'est dans Acte 8, 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, et il continua son chemin tout joyeux. Ok. Quand j'ai lu ce texte-là, vous avez vu quoi dans votre imagination? Vous avez vu quoi? Vous avez vu Philippe et l'Éthiopien qui descendèrent dans l'eau, parce que c'est bien écrit qu'ils sont descendus dans l'eau. Ils n'ont pas été vers un baptistère, un petit machin avec un petit gobelet ou une coquille Saint-Jacques. Non, 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 ils sont descendus dans l'eau. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu Philippe et l'Éthiopien dans l'eau, puis vous avez vu Philippe, dans votre imagination, prendre un peu d'eau, puis la répandre sur la tête de l'Éthiopien. Si vous avez vu ça, c'est que vous n'avez pas compris l'Évangile. Et si vous n'avez pas compris l'évangile, vous n'avez pas obéi à l'évangile. Et si vous n'avez pas obéi à l'évangile, vous n'êtes pas un chrétien, vous êtes l'adepte d'une religion plus ou moins chrétienne.
Si vous avez vu ça dans votre évangile, c'est que vous n'avez pas compris.
Dans votre imagination, c'est que vous n'avez pas compris.
Pendant que je lisais, si vous avez vu dans votre imagination Philippe et l'Éthiopien descendre dans l'eau, puis si vous avez vu Philippe plongeant l'Éthiopien dans l'eau, l'immergeant, alors c'est que vous avez compris l'évangile. Et vous, comprendre l'évangile, c'est aussi comprendre ce que les mots signifient. Le mot baptême signifie immersion. Alors si vous avez vu dans votre imagination Philippe immergeant ou baptisant, c'est lui même l'Éthiopien, c'est que vous connaissez, vous avez bien compris le vrai évangile. Ayant compris, vous avez la vraie foi, la foi qui sauve, la foi qui vous ouvre les portes du ciel, si du moins vous avez obéi, parce que vous avez peut-être compris, mais vous n'avez rien fait. Il faut le faire maintenant, il faut être baptisé, il faut être immergé. Ce matin, c'était rigolo, vous savez, tous les jours, on a un calendrier chez nous, qui s'appelle la bonne semence, ça c'était le samedi 6, puis derrière, il y a une petite... Il y a un petit message, toujours pour méditer. Alors je voulais le petit message d'aujourd'hui. Une fois qu'on a déchiré la page, on a accès au petit message. Voilà. Et je ne savais pas du tout, devant Dieu, je ne savais pas du tout. Quand j'ai préparé mon message, je ne savais pas ce qui était écrit là. Le baptême, c'est un acte symbolique. Notre vie est pleine d'actes symboliques. Serrer la main pour dire bonjour, applaudir pour montrer son admiration, lever les bras en signe de victoire, faire un geste de la main pour dire merci, etc. Un acte symbolique est donc un acte qui signifie quelque chose. Le baptême est l'un des deux actes qui nous parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ, l'autre étant le repas du souvenir du Seigneur qui était institué. La Sainte-Cène est plutôt centrée sur la personne de Jésus, sur le fait qu'il a donné sa vie, et que son amour a été victorieux. Le baptême, le fait d'entrer dans l'eau et d'en ressortir, évoque les résultats de la mort pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est-à-dire, voilà, vous avez compris, vous disparaissez de votre élément naturel vivable, et vous en disparaissez un moment, comme si vous entriez dans une tombe, vous êtes plongé dans un liquide où vous ne pouvez pas vivre, mais vous en ressortez, c'est le symbole que vous revenez à la vie avec une nouveauté de vie. Quand Jésus a commencé son service sur la terre, ses disciples connaissaient bien le baptême que Jean-Baptiste avait prêché, le baptême de repentance pour le pardon des péchés, Marc 1, 5. Mais Jésus a institué cet acte, donc ce baptême, dès le début de son ministère, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour que tous ceux qui croient en lui, Marc 16, 16, deviennent ses disciples. Être disciple de Jésus, c'est être à son école et apprendre de lui l'homme doux et humble de cœur. Le baptême chrétien nous parle déjà de cela. L'apôtre Paul nous enseigne. Nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, plongé dans l'eau, pour la mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors vous allez me dire, oui, mais ma Bible ne dit pas ça. Vous avez raison. Vous avez raison. Il y a des Bibles où ce n'est pas écrit comme ça. Par contre, si vous prenez la Bible Darby, c'est écrit la même chose que dans la Bible qui s'appelle la traduction officielle liturgique, c'est la traduction des théologiens catholiques qui sont des érudits. Et voilà ce que le texte dit au plus près du grec. Voilà, je relis le texte, c'est Romains, un peu plus, 6, je sais plus. Romains 6, 3. Je lis. Ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Voilà, ça c'est la vérité. Les Bibles qui disent que nous avons été baptisés en Christ, c'est pas juste.
Désolé, monsieur Segond, c'est pas juste. Il faut écouter les théologiens qui savent, qui connaissent et qui traduisent correctement. Nous avons été baptisés dans l'eau, et bien sûr qu'on a été baptisés dans le corps de Christ, mais nous avons été baptisés dans l'eau. Ça, c'est le symbole du baptême dans le Christ. Alors, si vous pensez que ce n'est pas important d'être plongé dans l'eau, c'est que vous vous permettez de juger ce que les Saintes Écritures enseignent, c'est que vous méprisez les ordonnances de Jésus, donc vous n'êtes pas chrétien. Un chrétien ne méprise pas les paroles de Jésus. Vous avez une religion qui se prétend chrétienne, et vous méprisez ce que les premiers disciples faisaient, comme Philippe, par exemple, ce qu'il a fait, d'immerger le nuque dans l'eau, vous méprisez ça en disant « Philippe, vous n'avez rien compris, mais moi j'ai compris, mon pape a compris, mon pasteur a compris, mon gourou a compris, mais Philippe, il y a 2000 ans, il n'avait rien pigé du tout, lui, c'est une grosse nouille. » Heureusement, nous on est déjà intelligents, on a tout compris. Et vous méprisez Philippe, et vous méprisez, qui était disciple de Jésus, il l'avait vu, il savait. D'ailleurs, les disciples de Jésus baptisaient, les disciples de Jean disaient, mais ils baptisent plus que nous, enfin bon. Vous n'avez pas compris. Vous êtes dans l'erreur, vous n'avez pas compris. Vous aimez Jésus, il n'y a pas de doute. Vous aimez Jésus, mais vous ne faites pas ce qu'il dit, vous ne faites pas ce qu'il veut. Or, Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Ça, c'est dans Jean 14, 21. Mais je vous ai déjà lu ça. Je vous ai déjà lu. Je vais en lire un autre qui dit quelque chose aussi. C'est dans Jean chapitre 5. Vous savez, moi, je prêche toujours comme si c'était la dernière fois. Comme si j'allais mourir demain et puis que j'aurais plus l'occasion de vous parler. Donc, je veux que vous sachiez, que vous connaissiez, et puis que voilà, c'est pourquoi je vous dis ces choses en insistant lourdement, parce que je me dis que c'est ma responsabilité de faire connaître la vérité. Alors, Jean chapitre 5, versets 2 et 3, c'est encore Jésus qui parle, et vous allez en avoir affaire avec Jésus. Est-ce que c'est ça? Jean 5, 2, 3. Mais c'est pas ça. Oh, je me suis trompé. C'est pas vrai, je me suis trompé. Ça m'arrive de plus en plus, hein. C'est l'âge. C'est l'âge. Mais tant pis, ça me reviendra peut-être une fois. J'étais sûr que j'avais noté la bonne référence. Parce que c'est... Ah non, excusez-moi, c'est 1 Jean 5. 1 Jean 5, 2, 3. Écoutez bien. Nous connaissons que nous sommes, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Comment est-ce que je sais que j'aime Dieu ? Eh bien, c'est en aimant les enfants de Dieu et en gardant les commandements de Dieu. Et garder les commandements de Dieu, ça n'est pas pénible. De vous faire baptiser dans l'eau, ça n'est pas pénible. Je ne sais pas quel esprit mauvais ne veut pas que vous soyez trempé dans l'eau. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est pour que... C'est terrible quand même, ça, d'être contredisant comme ça. Ce que Jésus dit là nous met devant notre responsabilité d'apprendre, de comprendre les Écritures et de les enseigner fidèlement, premièrement à notre famille, ensuite à nos amis, à nos connaissances, à ceux qu'on rencontre. Et frères et sœurs, écoutez-moi bien, c'est justement parce que la grande majorité des gens de notre pays de France n'ont pas compris l'Évangile et n'ont pas obéi à l'Évangile et se sont fait asperger plutôt que immerger parce qu'ils n'ont pas obéi à l'évangile, aux paroles de Jésus-Christ et des apôtres, ils ne l'ont pas enseigné à leurs enfants, c'est pourquoi nous voyons le niveau de moralité descendre de plus en plus bas parce que ces gens-là ne sont pas chrétiens, ils ont une religion dite chrétienne mais ne sont pas
chrétiens, ils ne sont pas disciples de Jésus, ils n'obéissent pas à Jésus, ils n'obéissent pas à l'évangile tel que la Bible dit qu'il faut le faire. Dieu a élaboré un plan absolument magnifique pour que nous vivions en paix, mais qui enseigne fidèlement ce message? Qui enseigne ça? Et qui le comprend? L'ignorance des choses sacrées conduit à l'abandon des valeurs. Si on se permet de commencer à douter de ce que Jésus dit, on peut se permettre de douter de n'importe quoi. Et on va droit dans le mur, on va droit dans ce que la Bible appelle l'apostasie. Je ne vous parle pas de doctrine là. Je suis en train simplement de vous demander, quand vous lisez l'Évangile, est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le lisez? Comprenez-vous ce que vous lisez? Et est-ce que vous obéissez à ce que vous lisez? Par exemple, dans ce texte-là, il nous parle de Philippe et de l'Éthiopien. Est-ce que vous comprenez réellement ce qui s'est passé? Ou est-ce que vous avez dans l'idée une idée qui a été insufflée par votre religion? Comprenez-vous que le mot baptême signifie immersion et non aspersion? Est-ce que vous allez trahir même votre propre langue? En disant, non, je m'en fous du dictionnaire, je m'en fous des paroles de Jésus, je m'en fous des disciples, je m'en fous du dictionnaire. Moi, mon idée, c'est ce que ma religion a dit, c'est-à-dire, tu prends un gamin de quelques semaines, tu lui mets de l'eau, ça suffit. Dieu a qu'à être content avec ça. Ah bon? Ben Dieu te laisse tomber. Et te plains pas si t'as des problèmes. Et te plains pas si t'as des problèmes dans toute la France. La France est le pays le plus rebelle du monde à l'évangile. J'ai prêché dans plus de 70 pays. Les gens reçoivent l'évangile avec joie. La France est un pays dur. Pourquoi? Parce qu'il est rebelle à l'évangile. Il ne veut pas obéir à l'évangile. Il est orgueilleux. C'est un peuple orgueilleux qui croit qu'il a toujours raison, qui râle tout le temps, qui rouspète tout le temps, qui dit tout le temps qu'il a raison. C'est toujours le meilleur. La France est le pays qui doit illuminer le monde. Mais dis donc, c'est terrible ça! Comprenez-vous que le mot baptême signifie immersion? Philippe n'avait-il rien compris de ce que Jésus avait enseigné dans Matthieu 19:20, où il est dit, Jésus dit, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Philippe n'avait pas compris ce que Jésus avait prescrit? Est-ce que l'apôtre Philippe était une grosse nouillasse qui n'avait rien compris? Et puis vous avez tout compris? Avec votre baptême par aspersion pour les enfants, alors que le baptême, la Bible nous dit que c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Comment un enfant peut-il avoir une bonne conscience envers Dieu? Ah oui, mais moi j'ai pris l'engagement. Ah oui, t'as pris l'engagement de quoi? Tu vis comme un païen et tu prends l'engagement que tu vas le conduire à Dieu? Moi je sais comment c'était. Dans l'église protestante, mon parrain et ma marraine s'appelaient M. et Mme Chabold. Ils étaient là le jour de mon baptême. Après ils ont été au restaurant, ils sont bien bourrés la tronche. Puis après, on ne les a plus jamais revus. Ils m'ont jamais parlé de Jésus, ces gens-là. Ils étaient témoins de mon baptême. Ils devaient prendre soin de moi, me conduire dans les choses de Dieu. D'après la religion protestante nationale suisse, ils ne l'ont jamais fait. Est-ce que vous qui êtes parrain ou marraine, vous vous occupez du petit qui était baptisé, est-ce que vous prenez la Bible, est-ce que vous lui enseignez? Non. Allez, ne racontez pas des histoires. Ça, c'est de la religion. Est-ce que les dignitaires des religions actuelles ont mieux compris Jésus que l'apôtre Philippe? Qui est-ce que vous allez croire? Ce que Jésus dit de faire ou ce que les gens de votre religion vous disent? Soyez honnêtes! Soyez honnêtes! Avez-vous compris et avez-vous obéi? Si vous vous entêtez à faire asperger vos enfants quand ils sont bébés, plutôt que de leur laisser le choix de se faire immerger, baptisés quand ils ont l'âge de comprendre, eh bien vous placez vos enfants sur le mauvais chemin. Vous placez vos enfants sur le mauvais chemin. Alors ils vont trouver normal d'aller se prosterner devant des statues. Oh là 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 là. Moi j'ai une jolie statue de Jésus, mais je ne me prosterne pas devant. Ça ne vient pas à l'idée. C'est une œuvre d'art, point barre. Mais vos enfants, ils vont trouver normal d'aller prier des statues. C'est normal, puisque c'est comme ça que ça se passe dans cette religion où ils ont été baptisés, de prendre une hostie à la place de prendre le pain et le vin, comme Jésus dit de faire. Hein? Ou ils vont trouver normal de n'être chrétien que le dimanche, et puis après, ben, on triche dans le travail, on ne paye pas ses impôts, on magouille, etc. On n'est pas honnête. Oh, mais les affaires, c'est les affaires. On n'est pas obligé d'être honnête dans les affaires, quand même. Ah oui, ça c'est... Ben, un jour, vos enfants trouveront normal, et ils auront raison, de rejeter cette religion hérétique pleine d'abominations. Pleine d'abominations. Vous n'allez pas pouvoir me dire le contraire. Et voilà comment on en arrive à avoir notre beau pays de France qui se déchristianise complètement parce que des gens ont mal expliqué les Écritures, ils les ont trafiquées, ils les ont trahies au profit de leurs traditions qu'ils ont inventées de toutes pièces. Et voilà. Et les gens et le peuple n'ont pas compris ce que Jésus veut. Et voilà. Ils ignorent ce que Jésus veut. Et de par ce fait, ils sont des païens. C'est-à-dire des incultes. Le mot païen, la signification du mot païen, ça veut dire inculte. C'est des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas accès à la connaissance. Avec une religion, certes, dite chrétienne, mais ils ne sont pas chrétiens, vous n'êtes pas chrétien. Je suis désolé, il y a un frère qui m'écoute là, qui a des révélations. Il y a quelques mois en arrière, c'était le diable qui lui parlait, qui lui disait des horreurs. Maintenant, il entend des voix qui lui parlent au sujet des prophéties, de ceci, de cela. C'est tout faux, ces histoires. Tu es dans une... Il faut se faire soigner. Ces voix-là ne viennent pas de Dieu. Tu n'as pas obéi aux principes bibliques, déjà premièrement. Et après, tu m'écris puis tu me dis que celui qui a les oreilles pour entendre, l'entend. Moi, je n'ai pas les mêmes oreilles que toi. Moi, je n'entends pas les démons. Hein. Je suis désolé de le dire, mais je parle comme si c'était la dernière fois que je prêche. Parce que je me sens responsable. J'aime la France, mais ça me fait mal au cœur de voir ce que c'est devenu. Je me rappelle encore dans les années 70, on allait se promener aux Champs-Élysées. C'était magnifique, on se sentait en sécurité. Les gens étaient des belles personnes, bien habillées. Maintenant, vous voyez n'importe quoi. N'importe quoi. C'est quoi, c'est devenu quoi, cette pauvre France? Un pays païen. Avec une religion chrétienne, soi-disant, mais abominable. Alors, où est votre responsabilité personnelle? Procurez-vous une Bible, lisez-la. Quelqu'un me demande cette semaine, mais comment on fait pour avoir une Bible? J'ai tapé sur Internet, sur Google, Amazon, Bible, chaque, c'est apparu en 2 secondes. Bible, il y en a à tous les prix, à partir de 1 euro. Jusqu'à 300, 500, 1000 euros, vous avez tous les prix. Vous pouvez choisir la Bible que vous voulez, prenez, même celle-là à 1 euro, elle est vraie, elle est fidèle. Arrêtez de me dire comment faire pour trouver une Bible. Amazon, vous savez bien comment faire pour trouver Johnny Hallyday. Amazon, vous savez bien comment faire pour pouvoir vous acheter vos breloques et vos machins. Vos... Amazon, c'est pareil pour la Bible. Trouvez une personne qui vous explique correctement les Saintes Écritures, sans trafiquer le contenu. Vérifiez bien si ce qu'il vous dit est bien dans la Bible. Et si vous ne trouvez pas une telle personne, ou si vous ne me croyez pas, au moins croyez ce que vous lisez de ce que Jésus dit, en utilisant un dictionnaire pour pouvoir comprendre la signification des mots. Parce que le mot baptême, tout le monde pense, on baptise des bateaux maintenant. On jette une bouteille de champagne dessus, on dit, oh, et on l'a baptisé. Baptiser maintenant, ça signifie donner un nom. On a baptisé le petit. C'est-à-dire, on lui a donné. Comment il est, c'est quoi ton nom de baptême? Mais c'est tout faux. Ça n'a même pas le sens de la valeur du mot, tel, de ce qu'il veut dire. Tout est à côté, tout est faux. Alors, revenez dans la vérité. Il faut que vous la compreniez, parce que votre vie éternelle est en jeu. Jésus est venu, il a donné sa vie, il n'a pas rigolé. Et ce qu'il a dit, c'est pas du rigolo, c'est du sérieux. On fait ce qu'il a dit. Si on se trompe, ben il est très gentil, il nous corrige, il nous reprend, il nous remet sur le droit chemin. Si on est trompé, il nous avertit, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, nous reprendre, nous corriger. Il n'est pas méchant, mais il veut qu'on se donne de la peine pour comprendre. Que Dieu vous bénisse. Bon, voilà, c'est peut-être la dernière fois. Maintenant, vous êtes face à la réalité. Que Dieu vous bénisse. Allez, je vous dis quand même au revoir, j'espère que je serai encore vivant la semaine prochaine. Au revoir, Dieu vous bénisse, au revoir.